On ne gagne pas l'indépendance en lançant des bombes. On a aussi besoin d'une foi, d'un évangile. On peut même parler d'une Bible. Le marxisme-léninisme me l'a fourni. Ho Chi Minh.
D'histoire. Si le Vietnam est aujourd'hui un des derniers pays communistes du monde, il le doit à un homme qui repose depuis plus de 30 ans dans un mausolée de Hanoï. Comme celui de Lénine sur la place Rouge ou celui de Mao Tse-tung sur la place Tiananmen, le corps embaumé de Ho Chi Minh fait encore l'objet de la dévotion d'un peuple pour lequel l'oncle Ho, comme on l'appelait, et moins le fondateur du parti communiste vietnamien que celui qui a tenu tête à la France et aux États-Unis pendant la guerre la plus longue du XXe siècle. Celui dont les Vietnamiens ont découvert le nom le jour même où il entrait dans l'histoire en proclamant solennellement l'indépendance de son pays. C'était sur la place Ba Dinh de Hanoï, le 2 septembre 1945.
Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay.
Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans, un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme, ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant.
Pierre Brochu, bonjour.
Bonjour.
C'était Ho Chi Minh à Hanoï le 2 septembre 1945, la date la plus importante peut-être de l'histoire du Vietnam, même si personne à l'époque ne pouvait imaginer qu'il faudrait encore 30 ans de guerre contre la France et les États-Unis pour que le Vietnam soit effectivement indépendant et unifié. Pour vous qui venez d'écrire sa biographie, qui était Ho Chi Minh? Est-ce que c'est le nationaliste vietnamien que l'on vient d'entendre proclamer l'indépendance de son pays? Ou est-ce que c'est le communiste qui a mis en place un régime de fer, hein, qui est aujourd'hui un des derniers régimes communistes du monde?
Oui. À mon avis, bon, cette question a été posée pendant très longtemps par les interlocuteurs de tout le monde, ceux qui avaient à négocier avec lui, comme Saint-Denis, par exemple, Leclerc. Pour moi, après donc plusieurs années de recherche quand même, et puis ce deuxième livre, sur Ho Chi Minh, car j'en avais publié un autre 2 ans auparavant, pour moi, Ho Chi Minh est un patriote vietnamien qui a cherché comment libérer son pays, comment reconstituer un État indépendant. Voilà. Et c'est pour cela qu'il a adhéré au marxisme-léninisme, parce qu'il a cru trouver, en 1920, dans la Troisième Internationale, et selon les paroles de Lénine, il a cru y trouver, n'est-ce pas, le moyen, l'instrument, et aussi, disons, l'aide, n'est-ce pas, le support pour pouvoir libérer son pays.
Parce que le marxisme-léninisme, c'est en principe, il est internationaliste. Son projet, c'est d'abolir les frontières, les États, etc. C'est pas le cas du nationalisme. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu incompatible. Cela dit, vous le rappelez, Pierre Brochu, d'abord, ce qui est étonnant quand on lit cette biographie, qui est difficile à faire, vous rappelez qu'il y a des tas de trous dans la vie de Ho Chi Minh, des périodes dont on ne connaît pratiquement rien. Vous rappelez d'abord qu'il quitte le Vietnam, dont il veut l'indépendance, mais il le quitte à l'âge de 21 ans, je crois, il le quitte en 1911, il est né au Vietnam, et il ne le reverra plus pendant 30 ans. C'est en exil qu'il va poursuivre son combat, et en adhérant, en 1919, je crois, juste après la Révolution russe, au Parti Socialiste Français. Il participe, c'est une des toutes premières photos que l'on connaît de Ho Chi Minh, au Congrès de Tours, et là, qui a marqué la naissance du Parti Communiste Français, et là, il devient communiste, et il devient un véritable apparatchik même de l'international communiste comme interne.
Oui. Alors, je crois qu'il faut revenir quand même sur les mots. Les mots sont très importants. Justement, moi, je refuse d'employer le mot nationaliste à son propos. Je préfère dire un patriote. Patriote avec, nationaliste a une connotation quand même, a une certaine connotation. Donc, c'est un patriote, mais en définitive, il a très bien compris que c'était dans une organisation internationale qui trouverait l'aide, l'appui nécessaire pour pouvoir affranchir son peuple. C'est pourquoi il est parti à Moscou, parce que Lénine avait dit qu'il faut s'occuper des peuples colonisés. Lénine avait donc cette fameuse stratégie qui était de faire sauter le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste. Et le maillon le plus faible, c'était les colonies. Donc c'est pour ça que Ho Chi Minh est allé à Moscou, parce qu'il pensait y trouver toutes les nécessaires, le support, la solidarité aussi internationale. D'autre part, c'est pourquoi donc on ne peut pas dire que c'est un nationaliste, c'est un patriote.
Alors il va à Moscou, mais il va aussi, on va le retrouver à Berlin, on va le retrouver en Chine, on va le retrouver en Thaïlande, un peu partout, sous un autre nom, qui est d'ailleurs son nom. Il ne s'appelle toujours pas Ho Chi Minh, il s'appelle Nguyen An Quoc, hein, je crois. Pierre Brochet, c'est en 41 qu'il prendra le nom de Ho Chi Minh. Et il est à Hong Kong en 1930, lorsqu'il fonde le Parti communiste indochinois, hein, il est arrêté à Hong Kong, et on a même annoncé sa mort. Il a disparu pendant 10 ans parce que les Anglais qui gouvernaient l'île avaient annoncé sa mort. Pourquoi?
Oui. Non, parce qu'il avait été arrêté par la police britannique, hein, faut pas oublier. Donc, et la police britannique, le gouverneur britannique de Hong Kong subissait la pression du gouvernement français, et le gouvernement britannique lui-même subissait la pression de l'ambassadeur de France à Londres, qui demandait l'expulsion, parce que il était condamné à mort par un tribunal impérial. Impérial, ça veut dire un tribunal de l'empereur d'Annam, à l'époque. N'est-ce pas?
Bordel.
Alors, donc, pour toutes ces raisons, les Britanniques ont dit, on ne peut pas expulser cet homme. On l'emmène à la mort. On le pousse vers l'échafaud. Donc, on ne peut pas l'expulser, habeas corpus, liberté, etc. Politiquement, nous ne pouvons pas faire cela. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, Ho Chi Minh a été défendu par les avocats britanniques. Et c'est son avocat britannique, Maître Losby, qui a inventé ce leurre de la mort. Il a fait annoncer la mort, urbi et orbi, comme on dit. Et en fait, c'était un leurre. Et en fait, c'est lui qui l'a fait, c'est cet avocat qui l'a fait sortir.
Et plus personne, ensuite, n'a eu de nouvelles de Ho Chi Minh. En fait, il était en Russie, à Moscou, à l'époque des Grandes Purges. J'ai eu peur pour sa propre vie, hein, parce que Staline a éliminé beaucoup de gens. Et il n'est revenu dans son pays, donc, en 1941, au début de la Seconde Guerre mondiale. Persuadé, d'ailleurs, de la victoire des Alliés, il s'installe à Paquebo, tout près de la frontière chinoise, au Vietnam. Il prend le nom de Ho Chi Minh, qui veut dire celui qui éclaire. Il fonde un parti dont les Français vont apprendre bientôt le nom, le Viet Minh. Écoutez, deux témoins qui m'avaient raconté il y a peu de temps le souvenir qu'ils avaient gardé de ce retour de Ho Chi Minh au Vietnam en 1944. Le futur vainqueur de Dien Bien Phu, le général Giap, et d'abord celui qui sera premier ministre du Vietnam, Pham Van Dong.
Ho Chi Minh me disait à cette époque-là, de toute façon, les Indiens auraient la victoire. Et c'est l'occasion excellente pour nous pour déclencher la révolution. Il s'agit de nous préparer, lui, pour fonder le front, qui s'appelait le front Viet Minh à cette époque, puis la formation des forces armées.
En 44, en décembre,
général Chiap,
j'ai été voir le président. Alors au cours de cette réunion qui s'est passée à Paquebo, immédiatement, le président a décidé qu'il faut fonder, n'est-ce pas, l'armée de libération. Il n'y avait pas de chose, n'est-ce pas, pour former une brigade. Et ça, c'est le commencement de l'armée populaire.
Et cette armée populaire dont parlait le général Giap, eh bien, c'est celle qui va se battre pendant 30 ans contre les Français, contre les Américains. Cela dit, en 44, quand elle est fondée avec une seule brigade, Pierre Brocheux, c'est contre les Japonais qui occupent le Vietnam que Ho Chi Minh a décidé de se battre. Il se bat du côté des Alliés, en fait.
Moi, je pense que les choses sont quand même... C'est ce que vous dites, c'est ce que dit la propagande, bien sûr. Moi, je pense que plutôt, Ho Chi Minh avait créé déjà des maquis, faut pas oublier, avant de créer cette fameuse brigade de propagande armée. Il avait créé déjà des maquis armés qui avaient attaqué les Français. Enfin, qui se battaient contre les Français, d'abord. Faut pas l'oublier. Et donc, pour lui, c'était l'instrument de la prise de pouvoir. Beaucoup plus que pour lutter contre les Japonais. D'ailleurs, pratiquement, il n'y a pas eu de bataille, ou presque pas de bataille contre les Japonais. Alors qu'auparavant, les quelques groupes de maquisards ont attaqué des postes français et tué des gardes chinois, même des officiers français, etc. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler.
Ce qui est étonnant quand on vous lit, Pierre Brocheux, c'est l'opportunisme de Ho Chi Minh. Le Viet Minh, d'abord, c'est plus le Parti communiste. C'est un parti qui est censé s'élargir à tous les Vietnamiens qui veulent l'indépendance, y compris des non-communistes. Et surtout, pendant cette période, en 44, il obtient le soutien des Américains. Ses futurs adversaires vont l'aider, justement, parce que il représente des maquis et qu'il n'est pas, en tout cas, du côté des Japonais. Mm-hmm. Les Américains vont aider Ho Chi Minh, alors qu'ensuite, ils devront se battre contre lui quelques années plus tard.
Oui. Je dirais que c'était un homme qui avait le sens de l'opportunité, plutôt qu'un opportuniste, parce qu'opportuniste, ça a aussi une connotation.
Péjoratif.
Certaines connotations péjoratives. Donc, Ho Chi Minh, si on peut lui attribuer du génie, c'est celui-là. C'est le génie stratégique. C'est pas le génie stratégique, diplomatique. C'était un homme qui savait très bien placer ses pions, préparer à l'avance les situations qui causeraient, en quelque sorte, le moment favorable, qui présenterait le moment favorable. C'est ainsi qu'il a à tout prix essayé d'entrer en relation avec les Américains qui étaient basés en Chine. C'est pas. Et notamment, là, il y a l'épisode où il ramène chez lui un aviateur américain qui a été abattu. Enfin, qui n'a pas été abattu exactement. Son avion a eu des avaries, il est tombé. Et ce sont donc ces maquisards vietnamiens qui ont ramené à Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh l'a ramené à une base américaine à Chin Si. Voilà. Donc, il tenait absolument à établir une liaison avec les Américains. Donc, ça, encore une fois, c'est un calcul de sa part.
Alors, autre calcul, Père Brocheux, extraordinaire. Il faut rappeler donc que les Japonais occupaient le Vietnam. Ils se sont même débarrassés en mars 1945 de toute l'administration française et de l'armée française. Et quand les Japonais capitulent au lendemain d'Hiroshima, il n'y a donc plus personne. Ho Chi Minh en profite aussitôt, mettant les Français au pied du mur pour proclamer, on l'a entendu tout à l'heure, l'indépendance, le 2 septembre 1945. Avant qu'ils reviennent avant que les Français reviennent au Vietnam, le Nord-Vietnam, selon les accords conclus entre les Alliés, est occupé par les Chinois. Et le 6 mars 1946, chose extraordinaire, cet homme qui veut l'indépendance de son pays signe un accord avec la France, avec le général Leclerc, le 6 mars 1945, permettant à l'armée française de revenir à Hanoï. Ça, c'était n'y rien comprendre.
Là, nous sommes de nouveau face au génie d'Ho Chi Minh. Il avait très bien compris la situation mondiale et la situation régionale et la situation locale. La situation locale, bon, en créant le Viet Minh, ça veut dire un front uni le plus large possible, réunissant les patriotes. Parce que, quand même, faut rappeler qu'au début, le Viet Minh est créé par les communistes. Hein, c'est le comité central du Parti communiste, ce qu'on appelait le comité directeur du Parti communiste, qui crée le Viet Minh. Et au début, le comité directeur du Viet Minh est composé uniquement de communistes. Hein. Ça, faut le rappeler quand même. Bon, ensuite, il a essayé d'élargir. Bon, alors, le 6 mars 45, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, le 6 mars 45, il a les Chinois chez lui. Mais les Chinois, pas n'importe lesquels. Pas les Chinois communistes, pas les frères. N'est-ce pas? Mais il a les Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek, dont il a été prisonnier pendant 2 ans. Il s'en souvient. N'est-ce pas? Par conséquent, il va manœuvrer. Il va manœuvrer encore une fois de plus. Et il va manœuvrer, très bien manœuvrer. Et il sait que les Français vont revenir de toute manière. Les Français vont revenir de toute manière, donc il faudra les avoir pour interlocuteurs.
Alors de leur côté, les Français, en tout cas le général Leclerc qui commande en chef en Indochine, lui, il signe cet accord qui reconnaît un État libre, hein, le mot indépendant, les Français refusent de le prononcer, qui reconnaît donc en Ho Chi Minh le chef du gouvernement d'un État libre, et c'est ainsi donc que le général Leclerc et l'armée française rentrent à Hanoï le 18 mars 1946.
Les Français ont fait dans Hanoï une entrée solennelle, saluée par les troupes chinoises qui leur laissaient la place. Le général Leclerc, au volant de sa Jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. Le général Leclerc, à qui les troupes du Viet Minh faisaient une garde d'honneur, a dû se montrer à la foule qui le réclamait. La France, que certains croyaient pouvoir dire absente du cœur de l'Indochine, n'en est pas sortie. Au sein de l'Union française, demain, l'Indochine va reprendre sa route.
La marche que vous entendez en ce moment est l'hymne national du plus jeune État du monde. C'est l'hymne national de la République du Vietnam qui vient de se constituer au sein de l'Union française.
Jacques Salbert, notre envoyé spécial en Indochine, a enregistré à Hanoï ses rythmes et ses chœurs qui, pour la première fois, sont diffusés sur des antennes françaises.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Ho Chi Minh.
Et c'est la première fois que l'on entendait l'hymne national du Vietnam, le Vietnam qui en 1946 donc était reconnu par la France comme un État libre, mais pas indépendant, c'est important, et cela dans le cadre d'un nouvel ensemble, l'Union française, et cela en vertu donc d'un accord, plein d'arrière-pensée, l'accord du 6 mars signé entre la France, qui pouvait ainsi revenir au Vietnam sans effusion de sang, et Ho Chi Minh qui ne voulait pas non plus d'une guerre, mais il fallait encore un traité pour définir précisément ce que deviendrait le Vietnam, et c'est ce que Ho Chi Minh est venu négocier à la conférence de Fontainebleau en France, où il arrivait le 22 juin 1946.
L'avion Dakota venant de Biarritz, à bord duquel le président Ho Chi Minh a pris place, vient d'atterrir sur la piste du Bourget. Monsieur le Président, au moment où vous prenez contact avec le sol de France, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au micro de la radiodiffusion française?
Je suis heureux d'arriver et de voir la France nouvelle. Laissez-moi vous dire que, Français et Vietnamiens, nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je suis sûr que Français et Vietnamiens, nous arriverons sûrement et rapidement à l'entente et à la collaboration égale, loyale et fraternelle.
C'était Ho Chi Minh donc arrivant en France pour la conférence de Fontainebleau le 22 juin 1946, accueilli comme un chef d'État qui intriguait beaucoup les journalistes de l'époque, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
Oui, en juin 1946, les Français découvrent Ho Chi Minh et l'homme intrigue. Physiquement, écrit Le Monde, c'est un homme frêle, menu, au front haut, au regard brillant, à la voix généralement douce, comme l'est souvent celle des annamites, mais qui s'enfle dans les discours et porte énormément sur la foule. On ne le voit jamais habillé autrement que d'un uniforme kaki et chaussé d'espadrilles bleues à semelles de cordes. Alors, le journaliste du Monde, reçu par Ho Chi Minh, s'étonne de son obstination à vouloir l'indépendance. Dans la pénombre, je ne distingue plus que sa barbiche rare, qui le fait ressembler à Lénine, et les yeux brillants de mon interlocuteur, qui déclare « Nous voulons la même chose que vous, Français, voulez pour votre pays, l'indépendance ». Donc, Ho Chi Minh arrive à Fontainebleau le 22 juin 1946. À Fontainebleau vont se tenir les négociations franco-vietnamiennes. Le but de cette conférence, explique le Figaro, est de préciser le futur statut du Vietnam dans la Fédération indochinoise et dans l'Union française, et le rôle de la France qui, écrit le Figaro, consciente des droits qu'elle a acquis par ses sacrifices, entend continuer à exercer son influence. Si l'influence française venait à être éliminée, met en garde le Figaro, elle serait inévitablement remplacée par d'autres, d'une façon certainement beaucoup moins libérale. Alors, l'humanité salue chaleureusement la venue de la délégation de Vietnam, une république amie. Plusieurs membres du Parti communiste, d'ailleurs, sont venus au Bourget accueillir Ho Chi Minh, embrassés notamment chaleureusement par Jeannette Vermeersch, la compagne de Maurice Thorez. René Andrieux, dans Ce soir, rend hommage au Viet Minh, le mouvement de libération nationale antifasciste, fondé par Ho Chi Minh, l'âme de la résistance. Mais le journaliste communiste condamne la présence militaire française en Indochine, une présence jugé colonialiste. Alors, la conférence de Fontainebleau s'ouvre en effet dans un climat assez tendu. De mauvaises nouvelles arrivent du Vietnam. Les agressions contre les Européens se multiplient à Hanoï, titre combat. Plusieurs journaux, notamment à droite, se méfient d'Ho Chi Minh. La présence en France d'Ho Chi Minh, qui dans les années 30 fut le complice du communiste Doriot, et les honneurs qui lui sont rendus sont une insulte à la mémoire des Français assassinés pour leur pays, s'indigne le journal L'Étoile du Soir, qui ne voit dans la douceur d'Ho Chi Minh qu'une opération hypocrite de séduction. On comprend mal comment des gens si raffinés ont pu torturer des femmes et des enfants en Indochine. Même indignation et même méfiance dans le journal L'Ordre. Pendant que les Vietnamiens égorgent dans d'odieux guet-apens nos soldats, le président Ho Chi Minh, ici, nous demande de lui faire confiance.
Un commentaire sur ces textes au moment où Ho Chi Minh était en France, revenait, parce qu'il avait vécu sa jeunesse en France, Pierre Brocheux, parce qu'on sent bien qu'il y a de la méfiance, et la conférence de Fontainebleau va être un échec. 3 mois après, c'est la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord, il faut dire que si Ho Chi Minh a tenu à ce que la conférence se tienne en France et non pas là-bas, comme le voulait l'amiral d'Argentlieu...
L'amiral d'Argentlieu, c'était le successeur, je schématise un peu
le commissaire de France.
Qui avait succédé, en fait, à d'Argentlieu, qui voulait le rétablissement de l'autorité française en Indochine. Il se foutait des accords du 6 mars.
Retour de la souveraineté française en Indochine, conformément à d'ailleurs ce que pensait le général de Gaulle à l'époque. en dépit du discours de Brazzaville.
Mais qu'est-ce qui s'est passé donc
Ho Chi Minh, comme beaucoup de Vietnamiens, pensait que la nouvelle France, comme il l'appelait, la nouvelle France ne se comporterait pas de la même manière que l'ancienne France. C'est une France qui venait de se libérer de l'occupation étrangère en combattant les Allemands et les nazis. Par conséquent, forcément, la nouvelle France était capable peut-être de mettre en pratique les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité.
Et elle ne le fera pas, elle refuse la défense.
Elle ne effectivement.
La guerre se déclenche en décembre 1946, elle va durer 7 ans. Ho Chi Minh part dans le maquis, alors on n'a pas le temps, bien sûr, Pierre Brocheux, de passer cette guerre, de parler de cette guerre dans le détail. Lui, il est resté 7 ans dans ce qu'on appelle le Viet Bac, je crois, dans le nord du Vietnam. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'on a le sentiment, en vous lisant, qu'il laissait au fond les affaires militaires entre les mains de Giap.
Oui, je pense que... Lui, il se donnait essentiellement le rôle de guide politique et moral et diplomatique. Donc, c'est essentiellement ce rôle-là qu'il a tenu. D'ailleurs, il n'a jamais été secrétaire général du Parti communiste, par exemple. Il n'a jamais été président du Parti communiste, il n'a jamais été secrétaire à l'organisation, comme l'ont été Staline, des gens comme ça. Voilà. C'était le guide moral. C'était le guide moral, le pédagogue. Voilà, il se présentait souvent, d'ailleurs, dans un de ses écrits autobiographiques, il se présente comme un maître d'école.
Obtenant quand même, il s'est débrouillé pour obtenir l'aide chinoise après l'arrivée de Mao au pouvoir en 49. La Chine va aider massivement le Viet Minh, de même que l'Amérique va aider beaucoup la France. Mais cette guerre se termine donc, on le sait, par la défaite française de Dien Bien Phu en mai 54 et qui contraint donc la France à signer les accords de Genève, à se retirer du Vietnam et de Hanoï où l'armée de Ho Chi Minh fait son entrée solennelle le 16 octobre 1954.
Les canons tirés par camion des troupes populaires pénètrent en force dans Hanoï. Des centaines et des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, appuyés sur des vélos, accrochés au réverbère, dans les arbres, dominant une floraison de drapeaux et de banderoles rouges, portant des inscriptions en vietnamien. « Vive le président Ho Chi Minh » est-il écrit tout près d'un arbre à côté de moi. Un véritable enthousiasme s'est emparé de la population d'Hanoï.
J'ai terminé ce reportage réalisé à Hanoï chez le président Ho Chi Minh. Écoutez un chant national vietnamien, Ho Chi Minh Mon An, et qui littéralement se traduit par « Mille ans, Monsieur Ho Chi Minh », la formule consacrée à la mythe pour offrir ses vœux à quelqu'un, et que l'on peut traduire en bon français par « Vive Monsieur Ho Chi Minh ».
C'était donc le retour de Ho Chi Minh et de l'armée vietnamienne à Hanoï après 7 ans de guerre contre la France. Le Nord-Vietnam, parce que le Sud, dans les accords de Genève, est prévu un partage du Vietnam en deux. Le Nord-Vietnam devient un État indépendant, mais pas libre. Pierre Brocheux, vous rappelez que c'est un régime de fer qui est mis en place. Est-ce que Ho Chi Minh a voulu le régime qui s'est mis en place après la victoire sur la France?
Bah écoutez, Ho Chi Minh, c'était un patriote, et comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'était aussi un révolutionnaire, un léniniste. Il voulait faire la révolution, notamment la révolution agraire. Ça, je crois que là-dessus, il n'y a pas à chiquer.
Ça a été féroce, cette révolution agraire, vous le rappelez.
Elle a été très dure. Ouais. Elle a été très dure. Mais toute révolution est très dure. Comme je dis, la révolution est cruelle.
Il y a eu aussi persécution.
La révolution française l'a été aussi cruelle. Faut pas l'oublier, hein, ça.
Il y a eu aussi persécution des bouddhistes, persécution des catholiques, épuration. Oui. Là, le Viet Minh, on l'a oublié. C'est-à-dire l'époque où...
À ce moment-là, les Vietnamiens du Nord sont passés à la seconde phase, qui était après la libération. Ce qu'ils appellent la libération nationale. Ils sont passés à l'instauration du socialisme, ou en tout cas à l'amorce de l'instauration du régime socialiste, c'était en fait soviétique. C'est pas, donc forcément, ils devaient faire la réforme agraire, qui était quand même, il faut le rappeler, le problème social par excellence.
Mais en vous lisant justement Pierre Brocheux, on a le sentiment que Ho Chi Minh n'était plus tellement d'accord avec ce qui se passe. En tout cas, on a le sentiment qu'il est sérieusement mis sur la touche, il est mis à l'écart, même pendant la guerre américaine qui commence au début des années 60, on parle de lui, mais on ne le voit plus, on n'entend plus parler. On a vraiment que l'impression que jusqu'à sa mort, au fond, c'est plus lui qui gouverne le Vietnam.
Oui, en fait, il pense pas la réforme agraire, j'en reviens là-dessus. Il pensait que pour lui, c'était la révolution par excellence. Bon, mais quand il y a eu ce qu'on appelait les erreurs, entre guillemets, de la réforme agraire, il est évident qu'il s'est élevé contre eux. Il a chargé Giap, d'ailleurs, d'aller faire son autocritique devant la foule, devant les cadres, etc. Et il a ensuite entrepris, il a fait entreprendre la correction des erreurs.
Oui, mais sans revenir sur la réforme agraire, pendant les années 60, est-ce qu'il gouverne encore le Vietnam?
Alors, pendant les années 60, il est très probable qu'il ne gouverne plus le Vietnam. En tout cas, il est dessaisi petit à petit d'une autorité. Je veux dire, pas de son pouvoir, parce que son pouvoir, ça a été toujours le pouvoir d'un pédagogue et d'un directeur moral. Mais il est dessaisi de son autorité par le secrétaire général qui s'appelait Les Ouen, qui avait un acolyte qui s'appelait Le Duc Thor, qui était donc le secrétaire de l'organisation.
Cela dit, on sent bien que le régime vietnamien qui est en place a encore besoin de lui, y compris après sa mort. Il meurt en 69, avant la fin de la guerre du Vietnam, et aussitôt on dresse un mausolée contre ses dernières volontés. Vous dites qu'il ne voulait pas être momifié comme l'ont été Lénine ou sera plus tard Mao, et on a besoin au fond de cette popularité qu'il a gardée. Est-ce qu'aujourd'hui encore au Vietnam, qu'est-ce qu'on pense de Ho Chi Minh?
Oui, justement, comme il s'était élevé contre l'édification d'un mausolée, et comme aujourd'hui pas mal de gens commencent à parler, des gens qui étaient au bureau politique, par exemple l'ancien rédacteur en chef du journal du parti qui a été responsable de la propagande, il a livré ses souvenirs récemment, où dans lequel il montre bien qu'Ho Chi Minh se taisait, mais qu'au fond, il n'était pas tout d'accord avec beaucoup d'initiatives prises par le bureau politique, par le secrétaire général. N'est-ce pas? Ce qui a valu d'ailleurs au petit livre de souvenirs qu'a été écrit par ce responsable de la propagande, d'être brûlé à la sortie, alors qu'il avait été publié par les éditions politiques d'État. Ça s'est passé l'année dernière.
Merci Pierre Brochet de nous avoir rappelé cet itinéraire étonnant de Ho Chi Minh, ce que vous faites dans une biographie d'Ho Chi Minh, donc qui vient de sortir chez Payot. À lire également une biographie de Giap, de Cécile Queret, publiée récemment chez Phébus. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1946, extraite du journal de votre année, disponible en cassette vidéo chez Montparnasse Édition. Et également, vous avez entendu des extraits de l'Histoire en direct de décembre d'une émission de France Culture diffusée en juin 1993. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Badassari et Michel Thomas, documentation et archivina, Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, une affaire dont on n'a pas fini de parler, 50 ans après qu'elle se soit produite aux États-Unis, l'affaire Rosenberg, ses époux, Julie et Cétel Rosenberg, qui ont été passés à la chaise électrique pour espionnage en 1900.